Africa.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Mars Africa. Bonjour le Maroc, bonjour l'Afrique. Nous serons ensemble jusqu'à 11h du matin pour parler de nombreux sujets. Les deux principaux sont les qualifications olympiques concernant les sélections féminines. Paris 2024, il n'y a plus que 4 pays candidats en liste. 2 iront aux JO et la Champions League plus la Coupe de la CAF. Ce seront des sujets que nous débattrons dans les prochaines minutes. En attendant, départ par la case information avec le flash général présenté par Mehdi Benellal. Sabah al-khair Mehdi.
Sabah al-khair Amin, tahiyya al-mustami' radio Mars.
موجز الاخبار.
البداية من نيروبي الإثيوبية، حيث اختتمت أمس أشغال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، والتي ترأس المغرب باعتماد عدة قرارات ومقررات إضافة إلى إعلان وزاري. وأكدت الدورة تحت رئاسة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي والمنعقدة تحت شعار إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لمكافحة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، على أهمية تعددية الأطراف وروح التوافق من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة للتحديات البيئية. شارك المغرب ممثلا بوفد رفيع المستوى عن المندوبية السامية للتخطيط في أشغال الدورة 55 للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة التي اختتمت أمس بنيويورك. وتعد اللجنة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الهيئة العليا المكلفة بدراسة واعتماد المناهج والمعايير الإحصائية الدولية، كما تسهر على الحكم الجيدة للنظام الإحصائي الدولي. وخلال هذه الدورة أدلى المغرب بعدة تصريحات تهم على الخصوص الإحصاء العام للسكان والسكنة والإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية والمحاسبة الوطنية والمحاسبة البيئية والاقتصادية والتصنيفات الدولية وإحصاءات النوع الاجتماعي وعلوم البيانات، فضلا عن مقاربات ومناهج عمل اللجنة الإحصائية. خلدت القيادة الجهوية للوقاية المدنية الدار البيضاء سطات أمس الجمعة مثل باقي جهات المملكة اليوم العالمي للوقاية المدنية، والذي يصادف فاتح مارس من كل سنة، وذلك من خلال تنظيم أبواب مفتوحة تهدف إلى التحسيس بالمسؤولية المواطنة. وتميزت هذه الأبواب المفتوحة التي أقيمت بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية بالدار البيضاء بحضور والي جهة الدار البيضاء سطات وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية بتقديم معطيات وإحصائيات حول تدخلات القيادة الجهوية للوقاية بمدينة الدار البيضاء سطات. نهاية الموجز، عودة إلى أمين بيروك وحلقة اليوم من برنامج مارس أفريكا. صباحكم سعيد.
Merci Mehdi. Il est 10h03 sur Radio Mars. 9h03 GMT. Direction Tunis pour notre première escale. Elle nous permettra de parler de compétition continentale masculine et aussi féminine. Ahmed Adala, bonjour.
Bonjour Amine, bonjour à tous les chers auditeurs et auditrices de Radio Mars.
Alors on commence par le tournoi qualificatif pour les JO chez les dames. Il y avait une double confrontation Tunisie et Maroc. Nous avions parlé du match aller de la victoire des Marocaines en Tunisie 2-1. Retour, le suspense n'aura duré qu'une vingtaine de minutes, grosso modo, pour une large victoire du Maroc. L'entraîneur de l'équipe tunisienne a parlé de manque de compétition, puisque cette équipe n'a que très peu disputé des rencontres depuis la CAN 2022 qui s'est déroulée au Maroc.
Oui, mais à part le manque de compétition que l'entraîneur a choisi d'évoquer, mais il y a aussi la différence du niveau, la différence tactique, la différence de niveau, la différence au niveau de la formation des jeunes joueuses marocaines ou ceux tunisiennes. On a peu de joueuses qui sont en compétition, oui. On a peu de joueuses qui évoluent à l'étranger, oui. Mais il y a aussi tout un travail derrière qui a été fait au Maroc. Il faut le souligner. Après, le match s'est déroulé dans de très bonnes circonstances pour les Marocaines, avec une présence remarquable des supporters, des fans de la sélection marocaine féminine. Je pense qu'il y a une énorme différence par rapport au niveau, et il y a les circonstances dans lesquelles nos joueuses ont préparé la compète, cette double confrontation. On ne va pas chercher des excuses ou des justificatifs, mais c'est mérité pour le Maroc et c'est mérité également cette élimination pour les joueuses tunisiennes.
Alors, Ahmed, comment expliquer que la Tunisie, qui est à la pointe de l'émancipation de la femme, depuis l'ère de Feu Bourguiba, n'ait pas réussi à percer dans le football féminin autant que le souhaiteraient les fans de football?
Je sais pas, mais apparemment, bon, c'est pas apparemment, le niveau de championnat qui n'est pas vraiment waouh. À un certain moment donné, il y avait beaucoup d'intérêt par rapport au football féminin. On en a déjà parlé pas mal de fois sur nos ondes de Radio Mars. Je m'en rappelle très très bien. Il y avait un intérêt. Il y avait des matchs. Il y avait même des matchs qui étaient télévisés. Mais là, on a ce sentiment que il n'y a pas vraiment ce focus, ce zoom, cet intérêt que le football féminin devrait avoir. La femme tunisienne, comme vous l'avez signalé, est une priorité pour la politique tunisienne, pour les gouvernements qui se sont succédés, pour les régimes politiques qui se sont succédés. La femme a été toujours mise en premier lieu. Mais là, par rapport au football tunisien, comme pour le football masculin, il y a beaucoup de choses à revoir. Il faut vraiment en tirer de l'essence. Il faut pas que ça passe comme ça. On n'oublie pas aussi que côté masculin, depuis 2004, on s'est pas qualifié au JO. Mais c'est une chute libre pour le football féminin. Il faut se remettre en question. Il faut revoir le football féminin de A jusqu'à Z, comme on le dit, à tous les niveaux, partant du nouveau championnat et même par rapport au staff tactique, au staff technique de la sélection. Il faut tout revoir.
Alors on va parler de Champions League avec évidemment ce match crucial qui se déroulera aujourd'hui à Tunis à partir de 20h entre l'Espérance et l'Hilal du Soudan. C'est le match de la qualification pour l'Espérance.
C'est un match décisif pour l'Espérance sportive de Tunis. Même Cardozo, Miguel Cardozo, l'entraîneur de l'Espérance de Tunis, l'a souligné. Et dans des tels matchs, c'est presque une finale. Donc c'est une finale en fait. Entre l'Espérance et le Hilal soudanais, comme l'avait souligné l'entraîneur de l'Espérance sportive de Tunis, le Portugais Miguel Cardozo, et on va pas chercher la manière, mais on va absolument se concentrer sur le résultat qui est très important. Le nul qualifie l'Espérance, oui, mais l'Espérance a pris l'habitude de jouer pour les 3 points. En face, il y aura une équipe qui manque de rythme, certainement à cause des événements que connaît le Soudan, mais c'est une équipe qui a vraiment montré de très belles choses durant cette phase de groupe. On n'oublie pas que l'Hilal avait battu l'Espérance 3-1 en Tanzanie. Ces matchs sont de l'équaliser et ça c'est ce qu'ont fait Florent Ibengué, que vous connaissez certainement, avec le Hilal. C'est vraiment un exploit. Après, nous en tant que Tunisiens, on a vu que l'Étoile est disqualifiée et éliminée, mais on va être tous derrière l'Espérance sportive de Tunis pour que ce club honore au moins, hisse au moins le drapeau tunisien très haut durant cette compétition.
Il y a aussi en Coupe de la CAF dimanche le club africain qui affronte Academica. Le club africain n'a pas assuré la première place, il va devoir se battre et prendre les 3 points parce qu'il y a aussi une équipe de Dreams qui est très forte.
Exactement. Même si je pense que mathématiquement, je suis pas sûr, mais mathématiquement, le club africain peut encore jouer pour la première place. Et cela va dépendre de l'autre match, Rivers United, donc face à Dreams. Mais en fait, le club africain va jouer contre la plus faible des quatre équipes lors de cette phase de poule en Coupe de la Confédération africaine. Je pense que le club africain avait raté son dernier match face à Dreams, vu plusieurs circonstances. D'ailleurs, le terrain, je sais pas comment ce terrain a été homologué, alors que nous, en Tunisie, on a des terrains meilleurs qui n'ont pas été homologués, approuvés par la CAF. Ça laisse poser des questions. Après, il faut pas aussi oublier que le club africain était amoindri. Il faut pas oublier que le club africain vient tout juste de nommer Mondre Lekbaye, l'ancien sélectionneur, à la tête du club après cette courte expérience de Jean-Michel Cavalli, qui n'a finalement disputé qu'un simple match amical avant d'être remercié par la direction du club africain. Ils ont choisi Mondrak Bayer certainement pour la discipline, mais surtout pour la discipline tactique. Le problème est que le club africain va souffrir et va devoir trouver de solutions par rapport aux absences. Il y a des absences dans toutes les lignes, en défense, en attaque et au milieu de terrain. Je ne sais pas comment ça va être, mais le club a toujours compté sur ses joueurs, oui, mais surtout sur ses supporters qui vont venir certainement en masse pour pousser le club vers une victoire et donc vers la qualification. On se rappelle tous du match contre Bahir Dar où le club africain était dos au mur après une défaite à Addis Ababa 2-0. Ils ont quand même assuré le nécessaire, ils ont fait le nécessaire en battant Bahir Dar 3-0. Il y avait beaucoup de pression, beaucoup de stress et c'était lors du dernier tour préliminaire avant la phase de groupe.
Merci beaucoup Ahmed Adel. Nous ferons le point la semaine prochaine sur ces compétitions continentales et nous verrons dans quelle mesure l'Espérance et le club africain réussiront à représenter le football tunisien lors de la phase d'élimination directe des deux compétitions continentales. Merci beaucoup. Juste après la pub, nous irons à Bouikon au Bénin pour retrouver notre ami Élisée Nkoupatine et nous ferons le point, un point général sur les compétitions continentales et sur le tournoi pré-olympique de football féminin.
الجولة السادسة من دور مجموعات لكأس الكاف مباشرة على راديو مارس. نهار البركانية غادي يواجه نادي ستاد المالي نهار الأحد مع سميزي العشية ملعب بلدي بركان.
هاد الماتش مباشرة على راديو مارس.
Minutes sur Radio Mars, direction Bouikon au Bénin avec Élisée Nkoupatine. Bonjour, mes salutations depuis Casablanca au Maroc, Élisée.
Oui, bonjour Amine Birouk et bienvenue au Bénin.
Ah, c'est la signature d'Élisée, hein. Une belle signature d'ailleurs. Alors Élisée, on va commencer par faire honneur aux dames avec le tournoi pré-olympique de football. Il n'y a plus que 4 sélections en lice pour 2 places qualificatives et le moins que l'on puisse dire, c'est que la logique a été respectée. Les 4 meilleures nations africaines du football féminin seront présentes lors de ce tour qui aura lieu début avril. Maroc, Zambie, Afrique du Sud, Nigeria.
Et bien évidemment, et on a, comme vous l'avez dit, l'hierarchie a été respectée. C'est vrai que, bon, à un moment donné, le match entre le Nigeria et le Cameroun montrait que c'était un match piège pour les Nigérians, hein, parce que je l'ai dit, c'est vrai, le match sur le score du nul 0-0, c'est souvent des matchs pièges quand vous n'arrivez, quand ces équipes n'arrivent pas à marquer un but à l'extérieur, et bien voilà, les Nigérians ont dû bien négocier cette explication retour, ils ont quand même contré quand même les Camerounaises et l'ont finalement emporté sur la plus petite des marques, hein, c'était nécessaire afin d'aller au second tour. Et on aura 2 représentants. La Zambie était, il y a de cela 4 ans. Est-ce que la Zambie sera encore présente, hein, du côté de Paris? Le Nigeria, on connaît bien sûr son palmarès, on connaît bien sûr la manière dont cette équipe nigériane peut émerveiller tout un continent. Bien, en face, il y a 2 autres, deux grandes nouvelles nations du football féminin, j'allais dire. Eh bien, l'Afrique du Sud, championne d'Afrique en titre, et surtout le Maroc qui a commencé par faire progresser son football féminin avec un championnat professionnel, tout ce qu'il faut pour quand même permettre à ce football féminin d'avoir un nom sur le continent et pourquoi pas dans le monde entier. Donc attention à cette équipe marocaine et bien sûr sud-africaine. C'est vrai que, comme je l'ai dit, la Zambie était déjà présente il y a 4 ans. Est-ce que la Zambie va manquer cette édition? En tout cas, tout dépendra de ces 2 derniers matchs en aller-retour. Attention, tout peut aller très vite, comme je l'ai dit à Amine Birouk, attention à l'Afrique du Sud et aussi au Maroc, c'est vrai que le Nigeria est quand même à un cran au-dessus quand on prend son palmarès, mais sur le terrain, il y a d'autres visages, hein, qu'en parlant du football africain, football féminin africain. Donc attention à cette dernière affiche entre
au dernier tour, ce sera Afrique du Sud Nigeria. Au dernier tour, ce sera Afrique du Sud Nigeria et Zambie Maroc. Donc
et justement, c'est pour ça, je disais, est-ce que on aura de la Zambie encore une Nigeria. Donc vous imaginez l'Afrique du Sud contre le Nigeria. La dernière confrontation entre les deux formations a été en faveur des Sud-Africaines qui depuis un certain moment commencent quand même à faire douter les Nigériens. Donc attention, c'est un match piège pour le Nigeria. En face, c'est bien sûr la championne d'Afrique en titre, et en face, c'est ce qui se fait de mieux, hein, en matière de football féminin depuis la dernière décennie. Donc le Nigeria, c'est vrai, ne fait plus peur depuis un certain moment, puisque les autres ont bien travaillé pour quand même arriver à sa hauteur. Aujourd'hui, ces deux matchs à élimination directe, est-ce que on aura la même visage? Donc ça va être un peu très difficile entre Sud-Africaine et Nigériane. Par contre, Zambie et Maroc, je dirais que c'est vrai, la Zambie et le Maroc n'ont jamais gagné une coupe en matière le football africain, mais ont progressé largement. Quand je dis largement, quand on prend les cinq dernières années, eh bien, le football féminin marocain et zambien ont progressé nettement. Et pour une fois, on aura cette explication qui laisse la saveur bouche. Donc, c'est dire que on aura une très belle affiche, hein, entre ces deux nations qui quand même nous ont montré les coups d'Afrique des Nations. Donc, on aura deux belles affiches, mais laissez-moi vous dire qu'on aura deux bons représentants au prochain jeu de Paris.
On va parler des compétitions continentales des clubs, et aujourd'hui, comme je le disais bien, monument en péril. Je parle du Wydad de Casablanca qui doit gagner et prier.
Gagner et prier. Et le Joanen Galassi, c'est vrai, qui sera en déplacement du côté de Simba. Est-ce que les Botswanais auront les forces nécessaires pour contrer cette équipe zambienne, puisque il ne suffit pas simplement de les contrer, mais de faire une très bonne prestation au vu de ce que Simba a montré du côté d'Abidjan lors de la précédente journée. Donc, il faudra d'abord battre la SEC d'Abidjan, déjà qualifiée, et qui veut finir en tête de ce groupe-là. Ça va être difficile, hein, pour les Marocains, le Wydad de Casablanca, qui de cela 2 ans était champion d'Afrique. Vous imaginez aujourd'hui un ancien ou un récent champion d'Afrique en difficulté. C'est ça qui fait justement le charme du football mondial. Donc vous imaginez le football, ce qui ça peut te procurer. Vous imaginez donc les supporters qui hier étaient aux anges, aujourd'hui sont en difficulté, puisque non seulement il faudra battre la SEC d'Abidjan, mais surtout espérer une contre-performance de Simba du côté de Dar es Salaam. Donc ça va être très compliqué, mais comme tout est possible en football, croisons les doigts, puisque les deux matchs vont se jouer au même moment, simultanément au même moment. Donc vous imaginez, il y aura des surprises, et des surprises, ça ne manque jamais en football.
Si Simba arrivait à se qualifier, ce serait le deuxième club tanzanien en quart de finale, puisque hier, malgré leur défaite face à l'Aliyah Meza 0, l'équipe de Young Africans s'est bel et bien en quart de finale de la compétition pour la première fois de son histoire. Une progression somme toute logique pour le club finaliste de la Coupe de la CAF la saison dernière, et pour un football qui, au niveau des clubs, a beaucoup investi, a mis beaucoup de moyens pour recruter des joueurs réputés. Allô, sur le continent. Élisée Oumpatine. Alors visiblement, je pense qu'on a un petit souci de... Est-ce qu'il nous écoute, Élisée?
Oui, c'est ça, non.
Alors, tu nous entends, je disais, si Simba parvenait à se qualifier, ce serait le deuxième club tanzanien en quart de finale. Autant dire que les moyens ont été mis dans ce football pour amener des joueurs réputés, pour briller sur le plan continental, puisqu'il y a aussi Young Africans qui a réussi à se qualifier pour les quarts de finale.
Oui, Young Africans, malgré sa défaite hier, hein, du côté de Al Ahly, eh bien, accompagnera le tenant du titre, le géant du Caire, en quart de finale. La lâche victoire 3-0 du ciel, Bel Wydad, ne servira à rien, puisque ce sera Young Africans qui ira en quart de finale. Le football tanzanien, depuis 5 ans, a mis énormément de moyens, vous l'avez dit, avec de gros sponsors, des gros investisseurs, hein, qui sont désormais dans ce football-là, et les résultats sont là. On a vu la Tanzanie lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui a eu en Côte d'Ivoire où il y a eu plusieurs joueurs évoluant justement dans le championnat local, même si l'Afrique du Sud est largement en tête hein, quand il s'agit des joueurs évoluant sur le continent africain. Eh bien, la Tanzanie aussi n'est pas restée du reste hein, puisque les Tanzaniens ont fait confiance à ces joueurs-là qui sont dans ce championnat-là, ce championnat qui est la révélation du football africain, puisque depuis 5 ans, comme je l'ai dit, le football tanzanien, le football des clubs tanzaniens a véritablement progressé. D'énormes moyens ont été mis. Simba, qui, quand même, il y a cela 2 saisons, était champion. Puis, Young Africans l'a détrôné la saison écoulée. Et Young Africans, pour la première fois, vous l'avez dit, est qualifié pour les quarts de finale. Cela montre combien de fois, quand vous voulez réussir, il faut mettre les moyens, les justes moyens et le bénéfice. Accompli. C'est vrai que Bénin est encore très loin, très très loin de cette formule-là. C'est vrai que le gouvernement ici ben, permet donc à ces clubs-là de bénéficier des subventions qui peuvent permettre à des clubs de se gérer, mais ces subventions ne servent pas à recruter de grands noms. En tout cas, le chemin est encore loin, le chemin est encore loin, il faut le dire. Aujourd'hui, quand on fait le classement des championnats africains, on voit que le Bénin est très très loin. Et la bonne nouvelle est que la Tanzanie, ce modèle-là, il faut copier le Maroc, l'Égypte. Quand nous allons au nord de l'Afrique, au sud de l'Afrique, il y a l'Afrique du Sud, il y a la Tanzanie. Au centre, c'est vrai, la RDC, qui quand même est en train de faire aussi un travail remarquable, même si 2 clubs sortent du lot, le TP Mazembe, géré par Moïse Katumbi, et puis la SV Club, qui vient de signer l'ancien international et capitaine marocain Abdessalem Ouadou, qui était du côté de l'Auto Popo FC du Bénin, le club qui a été champion du Bénin il y a de cela 3 ans, dont il était le directeur sportif, puis entraîneur, et après, les problèmes ont commencé.
L'Auto
Popo l'a licencié. Donc, vous imaginez, donc, il faudra mettre les moyens. Oui, Amin ?
Avec lui, souvent, il y a des petits problèmes. Ça commence comme une lune de miel, et ça finit dans un divorce.
Il y en a eu énormément avec l'Auto.
Alors, on disait.
Le problème est devant le TAS. Voilà.
Et pour conclure, en parlant de Ligue des Champions, il y a aussi un autre monument en péril puisque l'Espérance de Tunis n'a pas complètement assuré sa qualification. Il faudra au minimum un nul ce soir contre l'Hilal Omdurman.
Allô?
Je disais, Élisée, est-ce que tu nous entends aujourd'hui?
Oui,
un petit problème.
L'Espérance de Tunis, oui.
Voilà, l'Espérance de Tunis.
Oui, je vous reçois maintenant.
Alors, on parlait de l'Espérance de Tunis qui avait son destin en main.
Oui, son destin en main, puisque là, il faudra coûte que coûte hein, remporter son match de cet après-midi contre Al Hilal du Soudan. Al Hilal du Soudan qui aussi cherche une qualification hein, pour pouvoir accompagner le Petro Atlético de Luanda au second tour. Le Petro qui reçoit le second club tunisien, l'Étoile du Sahel, déjà éliminé. Donc, ce sera une finale pour la deuxième place entre Tunisiens et Soudanais. Un match qui s'annonce épique hein, où il faudra quand même suivre cette explication qui s'annonce explosive hein, et riche en suspense puisque rien n'est encore joué. Il faudra attendre le coup de sifflet final des 90 minutes pour être réellement fixé. L'Espérance de Tunis est en difficulté depuis 3 voire 4 saisons. Eh bien, cette formation n'arrive plus à être constante. Vous imaginez, même le football tunisien qui traverse des moments difficiles depuis un bon moment en témoigne hein, la contre-performance de ces clubs sur le continent. Et une fois encore, l'Espérance doit batailler très fort avant d'assurer sa qualification au second tour.
Merci beaucoup, Élisée Onkpatine. On se retrouve la semaine prochaine pour faire un bilan complet des 2 compétitions continentales et voir quelles sont les nouvelles forces en présence. Il y a plus de présence d'Afrique subsaharienne que d'habitude. Il y a une éclipse du football d'Afrique du Nord et il faudra tirer les conclusions. Après la pub, nous irons à Abidjan parce qu'il y a un match couperet, un match décisif pour le Wydad Casablanca entre le Wydad et la SEC d'Abidjan. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 17h, 16h GMT à Marrakech.
زوميكس برنامج إخباري جديد على راديو مارس تصريحات نشرة الأخبار سونداج مراسلات من داخل وخارج الوطن مع فاعلين رياضيين وفقرات أخرى رياضية زوميكس من 2 الجمعة من 12 للجوج على راديو مارس
الجولة السادسة من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مباشرة على راديو مارس الوداد الرياضي غادي يواجه نادي أسيك ميموزا الإيفواري نهار السبت مع 5 العشية الملعب الكبير مراكش
هاد الماتش مباشرة على راديو مارس
Bye.
Les 10h25 minutes ici à Casablanca, 9h25 minutes à Abidjan. Nous avons le plaisir d'accueillir notre consoeur Elisabeth Goli, notre sœur Elisabeth Goli. Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour Amine, bonjour chers auditeurs de la Radio Basse.
Alors aujourd'hui, l'ASEC d'Abidjan tient en partie le destin du Wydad de Casablanca en main. Je ne sais pas s'il y a un retour de politesse après ce que le Maroc a fait un peu pour la Côte d'Ivoire, mais le match est décisif pour le Wydad et c'est une formalité somme toute pour l'ASEC d'Abidjan.
Oui, effectivement, c'est comme je le dis, c'est une formalité pour l'ASEC d'Abidjan qui occupe la première place du classement. Et c'est une équipe qui s'est effectivement bien préparée, surtout après son match face au Simba, bien qu'ils aient résultat de un match nul. Mais l'ASEC part tout de même en conquérant pour vraiment consolider sa place, même si ça ne lui rapportera rien d'autre que se maintenir à cette position. Mais c'est une équipe, en tout cas, Chevalier va avec son effectif, il va vraiment avec de réelles ambitions, parce que montrer aussi ce que vaut la SEC, ce qu'est la SEC et autres, parce que cette compétition pour la SEC Mimosa cette année, c'est de vraiment occuper le terrain et remonter vraiment, revenir à sa renommée de l'une des grandes formations du continent.
Alors justement, quelles sont les forces en présence? Est-ce que Chevalier est parti avec tous ses joueurs? Quels sont les joueurs sur lesquels nous devrons nous focaliser devant le petit écran ou derrière nos transistors par rapport à cette équipe de la SEC d'Abidjan?
Il y a beaucoup. Bien sûr que c'est vrai que la Côte d'Ivoire voudra bien rendre la politesse au Maroc. Mais là, nous sommes en match de club, pas de sélection nationale. Donc, la SEC n'a pas voulu vraiment déballer toute sa batterie avant de partir. Mais toutefois, il y a un certain coup sûr qui, vraiment, la SEC compte après le départ de Sankara dans un autre champion. Et c'est tout. Il y a, en tout cas, au niveau du vestiaire de la SEC, de l'infirmerie de la SEC, il n'y a pas de blessés et autres annoncés. C'est la totalité de l'équipe, de l'effectif de Chevalier qui a effectué le déplacement sur le Maroc.
Alors, sur le match précédent, on avait vu une équipe en demi-teinte. N'avait pas réussi à prendre les 3 points de la victoire à domicile. Ça aurait arrangé un peu la situation du Wydad Casablanca. Est-ce qu'ils sont plus en jambes? Quels sont les derniers échos par rapport à cette équipe de la SEC d'Abidjan?
Plus en jambes, ce serait un peu difficile de le dire. C'est vrai qu'ils ont la volonté, ils ont la détermination de vouloir vraiment se maintenir à cette première place. Mais toutefois, il faut dire que c'est maintenant, après la CAN, c'est maintenant que le championnat national, le championnat local a débuté. La SEC n'est vraiment pas au mieux de sa forme. C'est vrai que la SEC a des matchs en retard, un match en retard, tout et tout. Mais c'est pas une grande équipe de la SEC qu'on reconnaît qui est vraiment... Qui est pimpante lorsque le championnat démarre véritablement, lorsqu'elle démarre le championnat véritablement. Donc, elle évoluera sûrement sur le même rythme que ce qu'elle a eu à faire face au Simba. Et là, peut-être la tâche même pourrait être un peu compliquée dans la mesure où la SEC est en déplacement face au public du Wydad et autres. Les choses ne seront pas aussi faciles parce qu'on sait, vous-même vous le savez, au Maroc, avec quelle détermination, quelle envie vous avez de pouvoir continuer la compétition.
Merci beaucoup Elisabeth. On fera le point, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et nous verrons dans quelle mesure il y aura un petit retour de politesse de la part de la SEC d'Abidjan. En tout bien, tout honneur. En tout cas, le destin du Wydad appartient à la SEC d'Abidjan, en partie puisqu'il faudra que le Wydad gagne à Marrakech et il faudra un résultat adverse pour l'équipe de Simba, c'est-à-dire soit une victoire de Galaxy Jonin, soit un match nul pour permettre au Wydad de passer par, je dirais, le petit trou de la serrure pour les quarts de finale de la prochaine édition de la Champions League, ou de l'actuelle édition de la Champions League. Il est 10h30, cap sur Kinshasa. Avec notre ami Michel Taubeau, là tout est bon pour l'équipe du TP Mazembe qui s'est qualifié avec l'art et la manière lors de la précédente journée et qui accueille pour un match de gala, mais un match qui compte pour au moins aussi la première place, les vainqueurs de l'African Football League dans sa première édition, Mamelodi Sundowns. Bonjour Michel.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars, merci infiniment. de me donner encore ce moment hein, pour m'exprimer par rapport à l'actualité footballistique hein, qui domine justement les débats ici en République démocratique du Congo. On va parler du tout puissant Mazembe, bien évidemment. Les Corbeaux Louchois ont réussi leur parcours dans cette compétition de la Ligue des Champions, se qualifiant pour les quarts de finale. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'il leur fallait. Ils ont réussi justement à battre la formation de Pyramide sur le score de 3-0. Donc ils se sont qualifiés. Voilà, ils se déplacent ce samedi pour l'Afrique du Sud où ils vont croiser la formation de Mamelodi Sundowns. Un match, bon, certes avec enjeu parce que c'est la première place qui est en jeu. Hein, le vainqueur sera certainement le vainqueur aura la possibilité de recevoir lors des quarts de finale retour à domicile. Ce n'est que ça l'enjeu, mais au-delà de ça, je pense que Mazembe a fait un très beau parcours en battant notamment les Mamelodi Sundowns hein, qui sont invaincus, qui étaient invaincus en tout cas durant les quatre dernières saisons. Voilà, c'est une bonne chose pour cette formation de Mazembe qui commence petit à petit à reprendre confiance. En tout cas, et c'est une bonne chose surtout pour le football congolais parce que Mazembe est le seul club qualifié pour le moment en compétition africaine interclub. C'est le seul club congolais qui reste dans ces compétitions. Les trois autres, les deux autres, disons, ont été éliminés. C'était Vingt Club et Lupopo. Voilà, donc on croise les doigts que Mazembe fasse un bon résultat. Et pourquoi pas, si Mazembe se qualifie pour les quarts de finale, l'objectif, ce sera certainement d'aller en demi-finale. Et ça sera peut-être une bonne chose pour nous parce que, je vous le rappelle, hein, la République démocratique du Congo a perdu une place en Coupe de la Confédération à cause des mauvais résultats et des clubs et de l'équipe nationale. Mais maintenant que l'équipe nationale commence à retrouver un tout peu de couleur, on espère que Mazembe va en rajouter. Voilà, pour nous permettre de récupérer la place que nous avons perdue en Coupe de la Confédération. Donc c'est une bonne chose pour nous. Mazembe part voilà en Afrique du Sud sans réelle pression. Voilà, Mazembe va jouer à son jeu comme il a l'habitude de le faire. Il sera soutenu bien évidemment par son président Moïse Katumbi, mais qui est sur place également en Afrique du Sud comme il en a l'habitude. Donc il voyage souvent avec son club hein, justement voilà pour les motiver sur le plan mental, ce qui est très bien pour le moral de joueurs. Voilà, Mazembe va jouer comme je te disais tantôt donc ce match avec beaucoup d'ambition, voilà, parce que l'objectif sera d'essayer de contraindre davantage cette équipe de Mamelodi Sundowns qui va jouer à domicile, même si ça ne sera pas dans son stade au Cap. Le match va se jouer à Johannesburg, mais bon, le Cap et Johannesburg c'est pas très distant, donc le stade sera plein avec les supporters de Mamelodi Sundowns qui viendront justement soutenir leur équipe, ce qui est de bonne guerre également. Les supporters de Mazembe l'ont fait également lors du match aller, donc mais Mazembe va jouer sans pression, voilà, il va jouer son jeu comme il a l'habitude de le faire. Voilà, on parlera pas voilà des éliminatoires des Jeux Olympiques hein, le football féminin, parce que nous on n'y est pas à la République démocratique du Congo, on s'est fait éliminer, mais on sera au Maroc cette année voilà pour la Coupe d'Afrique des Nations de seniors. Voilà, on sera là et on verra de la mesure de possible qu'est-ce que cette sélection qui revient après la 10 années d'absence quand même. Voilà, il faut le faire et on verra de la mesure de possible comment ces filles vont se comporter. Mais ce qui est très bien également, c'est une équipe qui se bat très bien, bien que elle n'est pas accompagnée sur le plan financier par le gouvernement congolais. Mais là, on espère que vraiment le gouvernement mettra assez de moyens pour que cette équipe se prépare dans les bonnes conditions pour faire bonne figure au Maroc cette année lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, surtout pour ce retour. Merci Amine Birouk, merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouvera la semaine prochaine encore pour une autre intervention. Merci à vous et à la prochaine.
Merci beaucoup mon cher Michel Tobo. Nous serons bien évidemment fidèles au poste avec toi. 10h34, c'est maintenant le tour de notre ami Drissa Nyono de faire le point sur la Coupe de la CAF. Drissa, bonjour.
Bonjour Amine, bonjour à toutes et à tous.
Et tous les regards des supporters du stade malien seront tournés vers la ville de Berkane où il y aura un match au sommet entre la RSB et le stade malien demain à partir de 20h, 19h GMT, avec au menu, au rendez-vous, le leadership et la suprématie du groupe D de la Coupe de la CAF. Berkane n'a besoin que d'un point, le Stade malien doit impérativement gagner.
Tout à fait. Donc, les Blancs hein, qui ont, à travers la gauche, cette défaite enregistrée face à la Renaissance de Berkane le 3 décembre ici à Bamako, ont pour ambition également de racheter leur erreur, c'est ce qu'ils disent, pour enfin avoir un résultat positif en déplacement, en plus de celui enregistré face au Diable Noir du Congo Brazzaville. Le Stade malien qui a déjà atteint son premier objectif, c'était une qualification après 11 années et de se retrouver à la phase des quarts de finale de la compétition. Les Blancs qui ambitionnent d'aller très loin dans cette compétition et se remettre sur le devant de la scène continentale, d'ailleurs, un trophée continental, dont ils ont ambition d'aller chercher également cette année, et après celui de 2009. Donc le Stade malien qui s'est déplacé avec 18 joueurs, et parmi ces 18 joueurs, on a également le retour de Souleymane Dramé, un joueur qui n'avait pas intégré le staff il y a très longtemps, qui va jouer son second match, qui est titulaire face à la récente Berkane. Alors le Stade, comme je le disais, a atteint son premier objectif. Et le second, c'est d'aller chercher le leadership de cette poule, bien évidemment, pour que, lors de la phase de quart de finale, qu'il puisse accueillir son match retour à domicile.
Alors on va aussi parler de cette sélection malienne qualifiée au JO. Elle a été bien évidemment très brillante, elle a réussi à composter son ticket, on connaîtra un peu ses adversaires le 20 mars prochain. Mais il y a un joueur du championnat de France qui a évolué avec les Bleuets, avec l'équipe de France, Espoir, qui a dit oui au Mali.
Oui, bon, ils sont nombreux, et ces jeunes binationaux qui veulent porter les couleurs du Mali pour jouer et participer aux prochains Jeux olympiques qui se dérouleront du côté de Paris. Et le plus récent, c'est Wilson Samake et qui a accordé une interview à un média local pour exprimer son souhait et son envie de jouer avec l'équipe nationale du Mali. Il n'est pas seul. Ils sont nombreux, mais le Mamadou Samake qui évolue du côté de Guimarães, il y a aussi d'autres attaquants comme Mamadou Camara qui évolue du côté de Kivili. Donc ils sont nombreux ces jeunes joueurs, mais le dernier mot revient à Alou Badra Diallo Konti qui a déjà déposé une liste de 28 joueurs qu'il doit convoquer pour le prochain match amical de cette équipe olympique du Mali qui va jouer un match amical face au Japon. Ce sera le 26 mars prochain à partir de 16h GMT ici à Bamako. Donc Alou Badra Diallo Konti et son adjoint qui ont déjà déposé leur liste et se préparent pour aller affronter le Japon du côté du côté de Tokyo, donc pour jouer ce match amical. Donc, c'est une équipe olympique qui est également très attendue parce que nombreux sont ces joueurs qui doivent également, qui sont à l'entrée de l'équipe nationale senior et d'après ce qu'on apprend également, parmi eux, beaucoup seront également sélectionnés par le sélectionneur national Eric Sekouchel pour la prochaine fenêtre internationale de mars. Donc que le Mali doit jouer également un match amical face à deux nations. Donc la première, c'est contre la Mauritanie d'abord qui a été désignée. Et il y a des pourparlers avec le Cameroun et également le Togo qui est censé aller s'entraîner du côté de Marrakech pour cette fenêtre internationale ou encore l'Angola. Donc pour l'instant, c'est la deuxième formation qui n'a pas été déterminée pour le moment. En tout cas, le Mali va jouer un de ses matchs amicaux contre la Mauritanie. Ce sera le 22 mars du côté de Marrakech.
Merci beaucoup, Drissa Nyono. On se donne rendez-vous samedi prochain à la même heure pour pouvoir continuer à faire un tour d'horizon de l'actualité malienne. Il est 10h40. Nous irons au Cameroun avec notre ami, nos amis, hein, parce qu'ils seront au nombre de deux, en tout cas je l'espère, dans quelques instants, nous les aurons pour pouvoir parler de l'actualité du Cameroun. Elle est nombreuse, l'actualité du Cameroun. Hein. Il y a quelques événements qui sont importants et qui nous permettent d'avoir, bien évidemment, un focus sur l'actualité d'un pays important dans l'histoire du football africain. Ce sera après une petite pause musicale, je suppose, puisque nous aurons notre ami William Tchango, notre ami David Iyengue. Donc voilà, c'est en cours, la connexion est en cours, il va falloir prendre son mal en patience, faire en sorte de, bien évidemment, pouvoir les contacter. William Tchango, bonjour.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs.
Alors tout d'abord, un démenti par rapport à une nouvelle qui a fait le tour de la toile concernant Issa Hayatou, l'ex-président de la CAF, qu'on avait annoncé décédé. Il se porte bien et il est en bonne santé.
Absolument, je crois que c'est un fake news qui a circulé hier soir et qui à la fin s'est avéré totalement faux. On apprend que l'ancien président de la CAF se trouve en ce moment à Paris en France où il est plus ou moins en bonne santé.
Alors, Issa Hayatou se porte bien, c'est un fake news et justement, pourquoi faire circuler ce type d'informations qui peuvent affecter les amis, l'entourage, la famille alors que finalement, il n'y a aucune information fondée dans ce sens. Et c'est devenu, je dirais, une tradition chez nous en Afrique. Hein. On tue les gens et les ressuscite.
Ah, absolument. Ouais, absolument. Avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est chaque illuminé qui, pour créer le buzz, propage des fausses informations de la sorte. C'est devenu tellement récurrent et on a conçu plusieurs fois sur une année ou ouais, sur un certain nombre d'années. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il est toujours important de vérifier l'information, de recouper suffisamment pour éviter de se retrouver en train d'être complice de cette propagation de fausses nouvelles. Donc, je crois qu'il faut être tellement vigilant, surtout toujours questionner les sources d'informations, toujours recouper pour ne pas tomber dans le piège de ces personnes qui sont à la recherche, en quête de buzz.
Alors, on va aussi parler d'actualité, ça commence par le football féminin. Le Cameroun va mal. Le Cameroun a été éliminé difficilement par le Niger dans les qualifications olympiques, mais le Cameroun n'ira ni à la CAN féminine, ni au JO.
Oui, il faut dire que le football féminin camerounais traverse une période absolument sombre depuis quelques années. Donc, l'équipe camerounaise ne sera pas présente à la CAN, ne sera pas présente au JO. Et lors de la dernière CAN au Maroc, elle a été éliminée très tôt dans la compétition, alors que depuis plusieurs années, après le Nigeria, on savait que le Cameroun représentait la deuxième grande nation en termes de football féminin en Afrique. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'équipe n'est que l'ombre d'elle-même, et tout cela passe, à mon sens, l'organisation qui n'est plus optimale. Par une sorte, j'ai l'impression aussi que cette équipe n'a pas suffisamment l'attention de l'exécutif fédéral de la Fédération camerounaise de football, surtout lorsqu'on regarde au niveau de la qualité de leur préparation, lorsqu'on regarde les dispositions mises en place pour leur permettre de se préparer pour les matchs. C'est vrai qu'à côté aussi, il y a un manque de talent. On a une équipe vieillissante où on n'a pas su construire la relève pendant de nombreuses années. C'est la raison pour laquelle des joueuses comme Abou Diongene vont continuer de jouer parce que derrière, on n'a pas préparé la relève. C'est aussi pour ça que des joueuses comme Chunjoué Adjara, leur absence, l'équipe est complètement à la dérive. L'équipe ne peut pas s'exprimer en l'absence de ce genre de talent. Donc, il y a un travail de relève qu'il est important de faire pour essayer de bâtir une nouvelle génération dans cette équipe qui n'a pas su se réinventer au fil des années. Et le football féminin aussi en Afrique est en train d'évoluer. Il y a des pays qui mettent en place des politiques pour permettre à leur équipe de se relever. C'est le cas du Maroc aujourd'hui, qui est aujourd'hui l'une des meilleures équipes sur le continent, alors qu'il y a pratiquement 5 ans, c'était pas le cas. Donc, c'est-à-dire que pendant que les autres travaillent au Cameroun, on a un peu dormi sur nos lauriers, et on a refusé de préparer la relève, de se réadapter, de se réinventer pour permettre à cette équipe-là de rester conquérante.
Alors, on va parler de l'homologue masculine avec la déclaration de Samuel Eto'o sur la non-reconduction du contrat de Rigobert Song. Ma question est un peu fractionnée en plusieurs tronçons. La première, c'est une chose qui était évidente, puisque le manque de résultats de l'équipe du Cameroun lors de la dernière CAN faisait que la situation était intenable pour Rigobert Song. Quel est le successeur? Et est-ce que ce n'est véritablement pas l'arbre qui cache la forêt? Parce que finalement, ce n'est pas le seul coupable, je n'ai pas dit responsable, d'un football qui est malade, de son championnat, de ses talents, de sa gouvernance.
Oui, bah absolument. Je pense que dès la nomination de Rigobert Song à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, les choses étaient biaisées à l'avance, parce que même s'il fallait choisir un entraîneur local, Song, à mon sens, n'était pas le plus qualifié, le plus compétent pour diriger cette formation-là. Donc, on comprend très bien que le choix de Rigobert Song obéissait à une certaine logique, à une certaine volonté de l'exécutif fédéral, dont de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, d'avoir un total contrôle sur cette équipe nationale du Cameroun. Et ça s'est vu à plusieurs reprises sur les sélections des joueurs, et puis sur parfois même sur le dispositif tactique à mettre en place sur le stade. Donc Rigobert Song, à un moment, était davantage perçu comme une marionnette, cette personne-là qui était là juste pour satisfaire les desiderata de son président de club, parce que il y a des décisions qu'il a été obligé d'assumer contre son gré. Le cas, par exemple, de l'exclusion d'Onana en pleine Coupe du Monde au Qatar, c'était pas de la volonté de Rigobert Song, et tous les enquêtes, tous les faits le montrent. La non-sélection des joueurs comme Gadeu pour la Coupe du Monde, la non-sélection de Choupo-Moting pour la CAN ou de Martin Ola, c'est des choix plus ou moins imposé à Rigobert Song, qui a été obligé de l'accepter ou non, je ne sais de quel deal avec le président de la fédération. Donc, c'était biaisé à l'avance. Et aujourd'hui, c'est vrai que les résultats le condamnent, mais comme vous l'avez dit, il n'est pas le seul coupable de ces résultats catastrophiques, parce que il était là pour, en quelque sorte, exécuter la volonté de certaines personnes. Donc aujourd'hui, à mon sens, il est question de trouver un entraîneur capable de s'affirmer, capable d'avoir une certaine personnalité, parce que c'est ce qui a le plus manqué à l'équipe nationale du Cameroun. Donc capable de gérer les grosses têtes que la sélection camerounaise pourrait avoir, parce qu'on a aujourd'hui l'impression que pour être bien vu, pour avoir une place au sein de l'équipe nationale, il faut pouvoir faire allégeance à une présidente de la fédération un peu trop présent, omniprésent à chaque fois. Donc, il va falloir quelqu'un pour réguler la vie au sein des vestiaires des Lions Indomptables, parce que si faut recruter un autre entraîneur pour qu'il vienne continuer un peu le travail, aller dans le même sens que ce que faisait Rigobert Song, je crois qu'on n'aura pas changé, on n'aura pas bougé d'un pas. Donc il faut que ce changement s'accompagne d'une nouvelle philosophie, d'une nouvelle orientation, d'une nouvelle manière de gérer les joueurs, de gérer la vie au sein de la Tania, et que ce nouvel entraîneur trouve la possibilité de mettre un peu d'être le patron du vestiaire et d'être celui-là qui prend toutes les décisions et d'être celui-là qui ferme le vestiaire à ses entre guillemets ces autorités qui veulent toujours garder le contrôle, parce qu'à la fin c'est toujours l'entraîneur qui assume malgré tout ce qui se passe autour de son équipe. Donc tout le monde s'attendait à ce que son contrat ne soit pas reconduit.
Et il n'a pas été reconduit. Merci beaucoup William Tchango, on est vraiment pris par le temps et on a encore quelques connexions à faire. Alors qu'est-ce qu'on m'annonce pour la suite? On va aller de quel côté? Est-ce qu'on reste au Cameroun avec David Eyengue ou on va à Conakry avec Chérif Aliou? C'est à la latitude de la régie et surtout David Eyengue, on reste toujours au Cameroun, ce sera dans quelques instants. Voilà, David, bonjour.
Allô.
Bonjour David Eyengue, tu es sur antenne mon cher ami.
Bonjour.
Alors ravi de te retrouver. Alors justement, comment s'est passée cette aventure au Mont Cameroun, hein? On s'est inquiété pour toi. Hein?
Non, il n'y avait pas à s'inquiéter. J'étais en train de boucler une enquête de plus de 20 ans d'âge. Donc voilà, je suis allé faire le sommet du Mont Cameroun, parce que c'est une compétition qu'on n'a pas encore bien racontée journalistiquement. Donc, il fallait que je fasse cet exploit-là pour essayer de la raconter dans un livre qui va paraître dans moins d'un an.
Alors, on va rapidement aller à l'actualité du Cameroun et on va parler de cette éviction de Rigobert Song. C'était une affaire courue d'avance, mais est-ce que le problème c'est Rigobert Song ou c'est tout le football camerounais qui est malade?
Il y a Rigobert Song qui est à la tête des Lions Indomptables qui ne donne pas les résultats escomptés. Et puis il y a aussi le football camerounais qui, oui, est malade depuis très longtemps. On attendait certainement de voir un médecin au chevet de ce malade-là. On a espéré que Samuel Eto'o soit le médecin qui soit à ce chevet-là. Et malheureusement, depuis 2 ans, on a du mal à avoir, n'est-ce pas, le football camerounais se relever de son lit d'hôpital.
Merci beaucoup, David Eyengue. On te laisse à ton enquête, à ton livre. Et bien évidemment, c'était court, concis, précis et excellent comme d'habitude. 10h52, il nous reste une dernière connexion pour pouvoir boucler l'émission. Elle est importante, du côté de Conakry avec Chérif Aliou. Parce qu'il s'agira de parler d'un autre signe de l'engagement du Maroc pour le développement du football en Afrique. Est-ce que Chérif Aliou est avec nous? Chérif, bonjour.
Bonjour Amine, bonjour à tous les frères marocains.
Alors, les frères marocains ont répondu à l'appel de leurs frères guinéens pour aider au relifting du stade Lansana Conté. C'est la fédération et c'est l'État marocain qui prennent en charge et qui amènent leur savoir-faire. Comment est perçu ce geste de fraternité à Conakry?
Amine, c'est une véritable bouffée d'oxygène le Maroc apportera à la Guinée dans le cadre bien évidemment de la rénovation du stade général Lansana Conté de Nongo, qui reste un casse-tête pour l'État guinéen. Et figurez-vous que ce stade-là, les travaux ont commencé depuis 2007, le stade a été inauguré en 2019. Mais depuis cette date, il y a eu des problèmes. À chaque fois qu'il y a une inspection de la CAF et de la FIFA, ben on trouve des problèmes qui font que le stade n'a pas été homologué. Du coup, comme vous le savez, le Sili joue ce match à l'extérieur, tout comme le club guinéen. Ben ça fait beaucoup parler ici en Guinée. Tout récemment, les travaux avaient été confiés à deux entreprises, une entreprise éthiopienne et une autre italienne, pour des travaux qui devaient durer 7 mois pour relever non seulement les tribunes, en passant bien évidemment par les vestiaires, mais surtout la pelouse. Mais malheureusement, les travaux ont été arrêtés entre les différents parties. Et bien là, on apprend que maintenant la Fédération royale marocaine de football ben, qui va venir en aide à la Fédération guinéenne de football dans le cadre d'un partenariat, bien évidemment, puisque M. Oumar Kira, le conseiller de Fawzi Lédia, était présent en Guinée le mardi dernier. Ben, il y a eu des discussions dans ce sens-là. Eh bien, le Maroc va donc prendre en charge la réfection de la pelouse du stade général Lansana Conté assez rapidement pour que la Guinée puisse disputer ce match à domicile, parce que comme je le disais, ça fait beaucoup parler ici en Guinée. Donc c'est vraiment une bouffée d'oxygène que le Maroc apportera là à son frère, à son pays frère qui est bien sûr la Guinée. On sait que les liens entre la Guinée et le Maroc datent de très 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 longtemps. Bien, on n'est pas surpris, oui, que le Maroc tende une nouvelle fois la main à la Guinée. Il y a eu beaucoup de réalisations dans ce sens, hein, notamment le palais Mohamed V, qui a abrité bien évidemment par le chef de l'État, entre autres réalisations bien sûr du Maroc. Et bien vraiment, ce geste-là est salué par l'ensemble de la population guinéenne, mais surtout par le grand public sportif guinéen.
Merci beaucoup, Chérif Aliou, et j'espère que les liens entre le Maroc et l'Afrique vont continuer, parce que nous voulons un partenariat win-win au nom de la fraternité africaine, au nom des liens qui nous unissent avec notre continent. C'est d'ailleurs l'objet, le bien fondé de ce rendez-vous hebdomadaire que vous retrouvez entre 10h et 11h du matin tout au long de notre grille normale. Allez, pour refermer le rideau, on va remercier notre réalisateur, c'est Mohamed Bono qui était bien présent aux manettes, tous nos invités, et donner rendez-vous à nos auditeurs pour Mass Africa samedi prochain, même heure, même endroit. Dans quelques instants, le Flash Info, suivi par l'émission Il n'y a pas que le football, Makesh El Kora avec l'excellente Leila Mounjim. Portez-vous bien. Yeah.